On continue notre petite étude ce soir sur, dans le livre d'Éphésiens. On est rendu au chapitre 3, à partir du verset 13. On continue à suivre les enseignements de Paul. On a vu comment est-ce que l'apôtre Paul, il encourageait les chrétiens, puis il nous a dit qu'on avait toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus, puis il nous a expliqué que c'est impossible pour nous d'avoir quoi que ce soit, mais tout ce qu'on a eu, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous accorder à nous qui sommes des païens, de pouvoir participer à tout ce que Dieu avait préparé pour son peuple. Maintenant, à cause que les Juifs ont refusé le salut est rendu accessible à tous les païens. Puis c'est pour cela qu'on peut être sauvé aujourd'hui. On continue aujourd'hui, en lisant les Épîtres, on voit comment est-ce que l'apôtre Paul, il avait de la sollicitude envers les gens d'Éphèse, mais pas juste envers les gens d'Éphèse, envers tous les chrétiens. La sollicitude, c'est d'avoir de l'attention, vouloir procurer des soins, de vouloir aider. Il était préoccupé par les gens, puis il voulait que les gens grandissent dans le Seigneur. C'est à ça qu'était la vision de l'apôtre Paul. C'est lui, l'apôtre Paul, qui était dans une position de souffrance, parce qu'il était en prison quand il écrivait cette lettre-là. Puis, il voulait que... Dans sa lettre, il dit, il voulait que tout le monde soit béni. Il voulait même dire que les souffrances qu'il est en train de vivre, c'était pour leur bénédiction à eux autres. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 13, Paul, il dit, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » On voit là-dedans que l'apôtre Paul, il fixait pas ses regards sur ce que lui vivait. Il regardait ce que les autres avaient de besoin. Puis là, dans son texte, il est en train de dire, je suis en train de souffrir, peut-être je suis en train de souffrir, mais il dit, perdez pas courage, ce que je suis en train de souffrir, là, c'est pour votre gloire, c'est pour votre bien, c'est pour votre avancement, c'est pour que vous soyez bénis. Parce que l'apôtre Paul a profité de ce moment-là, mais peut-être, ils m'ont dit un moment, c'est peut-être un an en prison, je ne sais pas. Puis c'est pas des prisons comme ici, là, c'était des cachots, des affaires bien difficiles à vivre. Puis il dit, je suis en train de souffrir, mais il a pris le temps d'écrire des lettres aux églises pour les fortifier. Il dit, ah, là, ce que je suis en train de vivre, les souffrances que je vis, c'est pour votre gloire. Comment est-ce qu'on peut arriver à penser que mes souffrances puissent bénir les autres? Chacun de nous aussi, c'est la même affaire. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à penser que mes souffrances pourraient bénir les autres? L'apôtre Paul pensait de même. Mais l'apôtre Paul l'avait expliqué dans un autre verset, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 6. L'apôtre Paul il a dit, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » L'idée là-dedans, c'est que quand tu souffres, à un moment donné, tu reçois ta bénédiction de Dieu. T'es guéri, t'es délivré, ou comme là, si t'es en prison et tu finis par sortir de prison, ça devient un sujet de joie. Puis ça, quand que tu sais que tu as souffert, puis que tu as reçu une réponse du Seigneur, puis tu as été guéri ou délivré ou tu es sorti de prison, mais c'est un sujet d'encouragement pour les autres quand ils nous voient. Sur le coup, ils se disent, oh, ça va donc bien mal pour l'apôtre Paul. Mais après, quand ils sortent de prison, c'est une joie, c'est un encouragement. Ils vont dire, Dieu a répondu aux prières. C'est ça qui est la bénédiction de quelqu'un quand tu souffres. C'est pas la souffrance comme telle qui est la bénédiction, c'est le secours qui vient de Dieu qui est la bénédiction. Puis quand tu l'as vécu, l'autre le voit, puis ça l'encourage l'autre, puis ça va aider l'autre à supporter sa souffrance, sachant que Dieu va finir par l'en délivrer. Ça veut dire, si on focus sur le secours de Dieu, tu vois le secours de Dieu dans la vie d'un autre, mais tu vas te dire, ça va m'arriver à moi aussi un secours de Dieu. Dieu va répondre, puis ça m'encourage à pas lâcher, à persévérer malgré la souffrance. C'est ça que la souffrance a comme fruit. Quand tu es béni, quand t'es béni, quand t'es exaucé, c'est là le fruit. Puis ça, ça l'emmène une bénédiction dans la vie des autres. Paul, il était une personne qui avait à cœur, qui avait un cœur pour les disciples. Il aimait les frères et sœurs en Jésus-Christ. Il aimait les disciples. C'était pas juste, ah, oh, c'est des disciples. Il les aimait. Il avait l'amour de Dieu en lui. C'est comme les chants qu'on a chantés tantôt. Ça disait de s'aimer les uns les autres. À ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns pour les autres. Mais Paul l'avait, cet amour-là. Il aimait les disciples, puis il vivait en fonction des disciples. Il pensait aux disciples. Il priait pour les disciples. Dans Philippiens 1:8, Paul il dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » C'est pour ça que quand il écrivait ses lettres, il aimait les gens, puis il avait un amour, il chérissait avec un amour comme Jésus les aime. C'est pour ça qu'il était capable de parler avec encouragement, puis tout ce qu'il faisait, c'était dans le but d'encourager les chrétiens. Il était en privation totale en prison, il souffrait, puis il pensait encore aux autres en priant pour leur croissance dans le Seigneur. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14, il dit, à cause de cela, ça doit être à cause des souffrances qu'il est en train de vivre, puis à cause qu'il voulait voir la gloire de Dieu dans la vie de ces gens-là. À cause de cela, Paul, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, parce que Dieu, c'est le Père. Puis il tire son nom comme Père, comme toutes les familles ont, ils ont un Père. Puis Dieu, c'est le Père des croyants. On l'a vu, samedi passé, dans la prédication, qu'on est devenu des enfants de Dieu. On vient pas au monde enfant de Dieu. On le devient quand on reçoit Jésus-Christ. Puis si tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est devenu ton Père. Puis maintenant, à cause de que Dieu est devenu notre Père, bien, Paul lui dit, je fléchis les genoux devant le Père. Pour prier pour les gens d'Éphèse. Il était en souffrance, puis il priait pour les autres. C'est fort, c'est fort. Paul, il priait pour le sujet le plus important pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui fait qu'un chrétien va être fort. C'est pas parce qu'il va avoir été à l'école longtemps, c'est pas parce qu'il y a bien tous les biens ou qu'il y a bien de l'argent ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'il est dans une belle grosse église, c'est pas ça qui fait qu'on est fort dans le Seigneur. Être fort dans le Seigneur, c'est parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, puis on est fortifié par ce Saint-Esprit-là. Paul, il dit qu'il priait, il était en prison, là, puis il priait pour les Éphésiens. Dans Éphésiens 3:16, il demande à Dieu que Dieu leur donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que tous les chrétiens d'Éphèse deviennent forts dans le Seigneur. Puis un seul moyen pour cela, c'est qu'ils soient puissamment fortifiés par l'esprit de Dieu. Ça veut dire que quand l'esprit de Dieu rentre dans la vie d'une personne, c'est pas juste pour il est né de nouveau. L'Esprit de Dieu, il est là. Pas juste pour ça. Il faut qu'il fasse un travail en nous pour nous fortifier. Pour qu'on devienne fort dans le Seigneur. Solide dans la foi. Ferme dans la foi. Inébranlable. Persévérant. Être capable de continuer malgré les souffrances. Parce que Paul, c'est le même qui était, lui, en prison. Il était capable de continuer d'encourager les autres, d'écrire des lettres pour bénir les autres, prier pour les autres, puis même désirer que les autres deviennent forts aussi. Parce que c'est ça qu'on a besoin, d'être rempli du Saint-Esprit, puis d'être fort par le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule chose de qui découle tout le reste, qui nous donne la force d'avancer. Dans Actes 4:31, là, tu t'envoies un exemple quand les apôtres Il commençait à avoir peur, là. Il était en train de prier. Il était en train d'aller évangéliser, plutôt. Puis, il commençait à avoir peur parce qu'ils ont eu des menaces. Puis là, ils se sont mis à prier. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puis ça n'a pas fini là. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Quand tu te sens là ébranlé, tu te sens, t'as pas le courage, t'as pas de force, tu sens que t'as peur, tu commences à avoir peur, tu commences à reculer. Cherche à prier pour demander d'être rempli du Saint-Esprit. Puis quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas le voir, la force du Seigneur va t'accompagner, puis tu vas être capable de faire ce que tu as à faire. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien peut demeurer dans la joie, dans la paix, puis être rempli d'espoir dans le chemin de la foi. Parce qu'on a tous à marcher dans le chemin de la foi jusqu'à la fin, mais on n'est pas tout le temps rempli de joie, de paix, puis d'espoir. Souvent, on peut être dans le chemin de foi, puis on commence à désespérer. On se demande si vraiment on va être exaucé. On se demande si vraiment on va s'en sortir de notre problème. Puis on perd notre joie, on perd notre paix parce qu'on vit des situations, puis on a peur, on a des craintes, puis on manque d'assurance, on manque de force. Puis c'est à cause qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Dans Romains 15, 13, ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse. C'est Dieu qui doit nous remplir de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, qu'on soit rempli d'espoir, qu'on soit tout le temps en train de s'attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Puis ça, il dit qu'il vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On voit là-dedans, pour qu'on soit un chrétien dans la joie, un chrétien dans la foi, un chrétien dans la paix, un chrétien rempli d'espoir, et ça va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est encore Paul dans Romains qui dit ça, que le Dieu de l'espérance vous remplisse par la puissance du Saint-Esprit. Paul le savait, que tout le jus qu'un chrétien doit avoir, là, toute l'énergie, le zèle, la foi, à être prêt à conquérir toute la planète, tu sais, ce feu-là, là, il sait que c'est juste le Saint-Esprit qui peut nous rendre comme cela. Puis c'est ça qu'on a le besoin de plus. C'est ce que l'apôtre Paul priait pour les gens d'Éphèse pendant qu'il était en prison. Ça, là, ça va nous permettre, quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis tu es rempli de joie, de paix dans la foi, puis tu es rempli d'espoir, là, mais ça va te permettre de ressentir, par la puissance de l'Esprit, bien entendu, ça va te permettre de ressentir la présence de Christ dans ta vie, ça va te fortifier dans la foi, puis ça va te permettre d'approfondir l'amour de Dieu, puis l'amour de Dieu les uns pour les autres. Parce que c'est encore le Saint-Esprit qui va produire ça. De nous donner la joie, la paix, l'espoir, tout ça. En plus, Christ va être comme... On va avoir une pleine assurance que Jésus est en nous par la puissance du Saint-Esprit. Puis ça va nous amener à être plus enracinés dans l'amour de ton prochain. Dans Éphésiens 3, 17, ça dit... En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Il dit d'être puissamment rempli du Saint-Esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu le ressens qu'il est là, le Seigneur. Tu es puissamment fortifié, tu es rempli de foi. Tu sais qu'il est là, tu as une conviction qu'il est là, puis ça va t'amener à être enraciné, puis fondé dans l'amour. Ça va t'amener à vivre la vraie vie que Jésus s'attend à ce qu'on vive. Parce que quand on n'est pas dans le Saint-Esprit, puis rempli, puis fortifié comme cela, faut l'avouer, on perd notre paix, on perd notre joie, on n'a pas d'espoir, on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on doute même le fait que le Saint-Esprit est là, puis quand on agit, puis on interagit avec les autres, on n'agit pas avec amour. On souvent c'est de l'amertume, puis de se plaindre, puis de critiquer, puis de tu sais, notre langage devient négatif, notre relation avec les autres devient négatif. Si on veut que notre vie change, si on veut qu'on soit comme Jésus voudrait qu'on soit, faut être puissamment fortifié par l'Esprit. Puis l'apôtre Paul, sa manière de le dire, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père pour que vous soyez puissamment équipés par la puissance du Saint-Esprit ». L'approfondissement de notre relation avec le Saint-Esprit nous fait comprendre davantage l'amour du Seigneur. Plus que tu vas être rempli du Saint-Esprit, plus que tu vas la vivre, l'amour pour ton prochain. Dans Éphésiens 3:18, on continue, il dit « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur ». Il dit, c'est ça qui est le but, parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas approfondir ta relation avec le Seigneur afin de comprendre la dimension de l'amour de Dieu. Lorsqu'on comprend l'amour du Seigneur pour nous, cela nous permet de nous approcher davantage de Dieu, puis d'être rempli davantage de toute la plénitude de Dieu. Parce que plus que tu vas être rempli de l'Esprit, plus que tu vas t'approcher de Dieu, puis plus que tu vas être rempli de la plénitude de Dieu, parce que Dieu, il y a plein de choses à nous donner. Pas juste de le recevoir quand on est né de nouveau. Dans Éphésiens 3:19, c'est le dernier verset pour ce soir, il dit, quand tu vas comprendre, tu vas connaître la hauteur, la profondeur, puis toute la dimension de l'amour de Dieu, tu vas connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Là, Dieu, il y a de quoi... Même quand tu te sens béni, tu te sens rempli, il y a encore plus. Tu vas rentrer dans l'amour profond de Dieu, tu vas la comprendre, tu vas la vivre, puis tu vas même rentrer dans toute la plénitude de Dieu. Tu peux dire rempli du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance. Il y a toutes sortes de mots qui désignent cette vie de plénitude que Dieu peut nous donner, qui va faire tout un changement avec la vie marchant selon la chair, dans les critiques murmures, chialées, puis se plaignent, puis pas heureux, pas de joie, pas de paix, pas d'espoir, dans le doute, puis pas ressentir sa présence, tout ça. Mais tout ça, là, Dieu nous appelle pas à ça, nous appelle à être puissamment fortifiés, vivre dans la joie, dans la paix, dans l'espoir, dans la foi, dans l'amour de Dieu, puis profondément, pas juste en surface, comprendre l'amour de Dieu pour nous, puis qu'on soit dans l'amour envers notre prochain, comme Jésus s'attend de chacun de nous, d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour l'exhortation, l'étude biblique. Ça nous parle, Seigneur, d'être cherché, être rempli de toute ta plénitude, Seigneur, puissamment fortifié par ton esprit. Je demande de souffler sur nos vies ce vent de plénitude-là, qu'on puisse être rempli de toute de ta plénitude, Seigneur, qu'on puisse vivre ta joie, ta paix, ton amour pleinement envers toi puis envers notre prochain. Merci de ce que tu vas faire en nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.